Le Haut Commissariat prolonge jusqu'au 3 mars les mesures administratives concernant l'alcool, les armes et les rassemblements. Le transport de carburant n'est, lui, interdit que jusqu'au 17 février et uniquement en province sud. On fait le point en début de journal. Les délégations calédoniennes sont actuellement à Paris pour la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel. Des rencontres organisées autour du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. La saison cyclonique bat son plein sur le territoire. Une nouvelle dépression tropicale arrive. Cette fois, c'est la Grande Terre qui sera la plus concernée par ce phénomène. Une rentrée universitaire placée sous le signe de la reconstruction et du développement. Ce matin se déroulait la rentrée solennelle sur le campus de Nouville. Le CHT Gaston Bourret partage l'envers du décor des traitements contre le cancer pour la journée mondiale qui lui est consacrée. Tous les ans, 10 000 chimiothérapies sont réalisées au Médipol. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Les mesures de police administrative encore en vigueur sur le territoire sont prolongées jusqu'au 3 mars inclus. Dans un communiqué, le Haut Commissariat annonce que l'ordre public a pu être rétabli et un retour à la normale est amorcé. Toutefois, au regard de la situation et de l'évaluation des risques, certaines mesures sont encore applicables tout ce mois de février, Jean-François Baudin.
Alors certaines de ces mesures ne changent pas. C'est le cas de l'acquisition de munitions de catégorie C, toujours limitée à 50 par mois, quel que soit le nombre d'armes détenues. Ne sont pas concernés par cette restriction les tireurs sportifs et les organismes chargés de la lutte contre les espèces envahissantes. La vente et la consommation de boissons alcooliques de plus de 22 degrés, c'est-à-dire les boissons de type whisky, rhum et vodka, est limitée à 1 litre par jour et par personne. Aucune restriction quantitative n'est imposée pour les boissons en dessous de 22%. De 22 degrés, pardon, ne sont pas concernées les ventes nécessaires à l'approvisionnement des débits de boissons. Les rassemblements, défilés et cortèges restent eux aussi interdits sur le Grand Nouméa. Ce qui change, c'est la vente au détail et le transport de carburant en province sud, qui est interdit jusqu'au 17 février inclus et non pas jusqu'au 10, comme c'était initialement annoncé. D'autre part, une dérogation pour les professionnels habilités à transporter du carburant dans le cadre de leur activité a toutefois été introduite.
En bref, une stèle à la mémoire du gendarme Molinari, tué par un coup de feu à Saint-Michel le 15 mai dernier pendant les émeutes. La stèle a été dévoilée ce matin à la brigade de Ploum en présence du général Bonneau, le directeur général de la gendarmerie nationale, qui est actuellement en visite sur le territoire. Une cérémonie en présence notamment du haut-commissaire Louis Lefranc, du maire du Mont-d'Or, Eddy Lecourieux, mais aussi du général Poti, commandant de la gendarmerie outre-mer, et du général Mathéos, commandant dans la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Les délégations calédoniennes à Paris pour l'ouverture des discussions bilatérales. C'est aujourd'hui que débutent les rencontres entre l'État et les forces politiques calédoniennes et ce sera dans la soirée pour nous, Elisabeth Noir.
Oui, c'est à 10h ce matin à Paris, 20h heure de Nouméa, que la délégation des loyalistes sera reçue rue Oudinot pour des discussions bilatérales avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et Éric Thiers, le conseiller du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie. Cette délégation est composée, rappelons-le, de Sonia Bacquès, Nicolas Metzorf et Gilles Brial, mais aucun calendrier n'a été rendu véritablement public. On sait par exemple que la délégation du Rassemblement, composée d'Alcide Ponga et de Virginie Rufnac, auquel s'est joint Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, a déjà eu un entretien hier avec Manuel Valls et Éric Thiers, et qu'elle les rencontrera de nouveau jeudi après-midi. En fait, l'ensemble des groupes politiques sont présents dans la capitale. Les 5 groupes politiques du Congrès, c'est-à-dire les loyalistes, le Rassemblement Calédonie Ensemble, le FLNKS et l'UNI, auxquels s'ajoute une délégation de l'éveil océanien composée de Velma Falaeo et de Milakulo Tukumuli. Et ces différentes délégations vont se succéder dans les jours qui viennent rue Oudinot. Une rencontre a également eu lieu pour plusieurs délégations avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Les deux présidents de chambre qui étaient sur le territoire en novembre suivent de très près manifestement ces discussions bilatérales. L'ensemble des délégations sont à Paris, rappelons-le, à l'invitation du Premier ministre François Bayrou. Cette première séquence a pour objectif de rétablir un dialogue sincère et apaisé entre les parties prenantes dans le cadre de l'accord de Nouméa. Mais le Premier ministre souhaite qu'après ces discussions bilatérales, des négociations tripartites s'ouvrent le plus tôt possible. François Bayrou l'écrit dans sa lettre aux partenaires calédoniens. Il précise aussi dans ce même courrier que le gouvernement proposera un document de travail nourri par les discussions bilatérales qui pourra servir de base aux négociations tripartites. Si tout se passe bien, le ministre des Outre-mer souhaite évidemment réussir dès cette fois-ci un premier round de discussion avec l'ensemble des délégations calédoniennes, partisans de la France et indépendantistes. Et puis il y a aussi la conférence économique qui devrait avoir lieu samedi matin à Bercy. Les maires de l'agglomération et les présidents des chambres consulaires devraient y participer en visioconférence depuis Nouméa. Bref, vous le voyez, beaucoup de rendez-vous dans les jours qui viennent. Reste à savoir si ces discussions seront ou non décisives.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Pensez-vous qu'à l'issue des discussions bilatérales, l'État fera une proposition claire pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez que l'État fera une proposition claire, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il ne le fera pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 91% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS ne souhaitent pas que le gouvernement Bayrou soit censuré alors que le Premier ministre a annoncé sa décision de faire usage du 49-3. Ils ne sont que 9% à dire qu'ils souhaitent la chute du gouvernement. On fait le point sur la météo des prochains jours. Si la dépression tropicale faible TD05F s'éloigne progressivement du territoire, la Calédonie n'en a pas fini avec le mauvais temps pour autant. Une autre dépression devrait toucher le territoire dès cette nuit, Charlotte Coulson.
En effet, la première dépression qui nous arrivait du Vanuatu continue son chemin au large des îles Loyauté. Nous sommes donc sur la fin du passage de ce phénomène météo qui aura apporté du vent et de la pluie sur Ouvéa dans la nuit de dimanche à lundi. Lifou hier tout au long de la journée et sur Marée aujourd'hui avec des cumuls de pluie et des rafales assez importants, comme l'explique Ludovic Lesca, prévisionniste chez Météo France.
La dépression qui nous a concernés ces derniers jours est en train de s'éloigner. Elle est dans le sud du Vanuatu, là, et à plus de 200 km dans l'est de Marée. Elle est en train de s'affaiblir. Bon, elle a quand même donné entre 300 et 350 mm de pluie sur l'épisode, là, notamment sur les îles Loyauté, avec des rafales qui étaient autour des 100 km/h, voire un peu plus par endroit, quoi.
Et c'est Marée qui a été la plus touchée aujourd'hui. Sur place, on ne signale pas de dégâts majeurs. Toutefois, des branches d'arbres encombraient les routes. Les sapeurs-pompiers procédaient ce matin aux opérations de déblayage. Noël Songe est chef du centre de secours et d'incendie de Marée.
On est en train de dégager donc les axes routiers donc avec la gendarmerie. Donc on est en train de faire les nettoyages sur toutes les routes de l'île. Pas mal de branches au bord de route et puis des arbres sur les axes principaux. C'est dû à des rafales de hier, c'est-à-dire 17h jusqu'à 11h du soir. Non, pas de dégâts qu'on a constatés au niveau des habitations, donc une bonne nouvelle. Comme les gens, ils ont déjà anticipé, ils ont commencé à enlever les toits, des structures qui ne sont pas solides. On a évacué 8 personnes dans les internats. Parce qu'en fait, ils avaient peur, leur structure n'était pas très solide, du coup, ben, ils ont préféré nous appeler pour les évacuer. Et comme ils n'avaient pas de moyens de locomotion, donc on s'est déplacé pour les évacuer. On a eu des coupures de courant aussi hier soir. Ça a repris hier encore, mais parce que l'équipe de permanence des Narcales a été à CD sur les travaux. Et puis là, ils ont terminé. Il y a toujours un été, mais Bouette qui n'a pas de courant ce matin. Donc là, l'équipe des Narcales, il fallait nécessaire là, pour rétablir le courant.
Et si la dépression TD05F s'évacue en ce moment vers le sud du Vanuatu, la dépression TD06F arrive, elle, tout droit des îles Salomon. Actuellement située à 400 km au nord-ouest de Belep, elle génère des vents de 30 nœuds autour de son centre. Son arrivée sur le territoire est prévue pour cette nuit. On retrouve Ludovic Lesca, prévisionniste au centre Météo France de Nouméa.
Comme elle avance plus lentement, on s'attend à ce qu'il y ait quand même des forts cumuls de pluie. Là, elle va s'approcher du nord de la Calédonie en cours de nuit. Et pendant deux jours, elle va circuler à proximité du territoire, du nord vers le sud. Donc, on s'attend encore à avoir des gros cumuls de pluie quoi, sur les deux jours. Mais bon, il y a une incertitude sur la trajectoire aussi. Mais c'est plutôt la Grande Terre qui serait concernée. Mais par contre, à la fin, elle risque de traverser la Grande Terre et d'arriver par le nord-ouest et de sortir vers le sud-est. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, les Loyautés seront plus concernées. Mais ça sera plutôt pour la journée de jeudi, et surtout qu'elle risque de se renforcer à ce moment-là. Mais bon, comme il y a un peu d'incertitude sur le renforcement, pour l'instant, on tape plutôt sur des vents alors jusqu'à 80 km/h et qui pourront peut-être se renforcer par moment à 100 km/h quoi, à la fin.
Et l'arrivée de cette nouvelle dépression n'arrange pas les problèmes de transport vers les îles Loyauté. La compagnie aérienne d'Air Calédonie a annoncé ce matin que les vols seraient suspendus au moins jusque vendredi. En cause, les conditions météo bien sûr, mais aussi parce que deux avions sont cloués au sol. Les passagers sont invités à remplir un formulaire afin de préciser à la compagnie domestique l'urgence de leur déplacement. La situation n'est pas mieux du côté du Betticho. Les rotations maritimes sont stoppées au moins jusqu'à demain.
Et notez que nous reparlerons du risque cyclonique sur le territoire demain avec notre invité du matin. En effet, le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication de la sécurité civile, sera dans nos studios à 7h30 pour notamment rappeler les différentes consignes à la population lors d'événements météorologiques dangereux. Il est 17h56, on va marquer une pause dans ce journal avant de voir comment s'est déroulée la rentrée solennelle de l'UNC ce matin. A tout de suite.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Chez Sima Quincaillerie, à partir du 1er février, c'est la rentrée des prix. La perceuse visseuse Makita 450 watts Mandrin Auto est à 7900 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Kateviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Des rats autour de chez vous? Pensez Formula 4D. N'attendez pas qu'ils évoluent à l'intérieur. On vous propose un traitement adapté pour les éradiquer. Plus d'infos sur formula4d.com.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'InfoSoir, Léonard Colombo.
Et l'UNC faisait sa rentrée solennelle ce matin. Devant la communauté enseignante et les représentants des différentes institutions, Catherine Ries, la présidente de l'université, a dressé le bilan de l'année 2024 et présenté les perspectives pour cette nouvelle année universitaire. Catherine Ries souhaite la placer sous le signe de la reconstruction.
Évidemment, notre positionnement à venir dépend fondamentalement des événements qui ont eu lieu en 2024. Donc l'université repriorise ses actions pour l'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie dans ses grandes transitions. La transition alimentaire avec la création d'un pôle en agroécologie qui sera sur le campus de Bakau, qui a l'objectif de former et d'accompagner la politique de transition alimentaire vers une alimentation durable. La transition écologique environnementale avec des formations et de la recherche en lien avec la décarbonation de l'industrie, en particulier l'industrie du nickel, mais pas seulement. Également l'accompagnement vers la transition numérique avec le projet de Campus N, un campus des métiers et des compétences dans les formations numériques. Et puis, ce qui nous semblait important aussi, c'est d'accompagner la reconstruction sociale, sociétale de la Nouvelle-Calédonie au travers du développement d'une recherche et de formation en sciences politiques et en sociologie. Le levier qui nous semble être le plus pertinent, c'est de créer un institut Sciences Po Pacifique.
S'il est encore trop tôt pour connaître le nombre d'étudiants cette année à l'université, Catherine Ries estime qu'il est essentiel de tout mettre en œuvre pour que les jeunes rejoignent les bancs des campus de Nouville et Bakau en nombre.
Comme dans toutes les crises, ce qui sera le plus dommageable ou qui aura le plus d'impact à long terme, c'est la perte d'éducation qu'on a pendant cette période de crise et des parcours qui ne sont pas achevés, des études qui sont abandonnées. C'est en termes de, concrètement, de valeur ajoutée économiquement et sociale, c'est là qu'on aura le plus d'impact. Donc c'est vraiment un appel aux étudiants, même si l'année dernière la situation a fait qu'il n'a pas été possible de poursuivre la formation, de revenir aujourd'hui sur les campus. Mais comme je l'ai souligné, il faut pour ça que l'ensemble des pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour que ce soit possible. On a fait un effort également pour pouvoir appeler nos étudiants, en particulier de première année, qui ne sont pas en revenus sur le campus, sur les campus l'année dernière après les émeutes. Ils ont abandonné leur formation en cours d'année pour leur dire que leur place existe toujours. Ils n'ont pas besoin, eux, de repasser par Parcoursup. Ils peuvent venir reprendre leurs études, même s'ils ne sont pas arrivés au bout de la première année l'année dernière.
Les étudiants de première année feront leur rentrée demain matin, tandis que les cours reprendront pour l'ensemble des étudiants lundi prochain.
RMB, il est 18h.
En bref, les urgences des CHN de Coumac et Poindimier resteront fermées jusqu'au 28 février, faute d'effectifs infirmiers et médicaux suffisants. À Coumac, les consultations externes sont également fermées. À Poindimier, elles ne seront effectuées que du lundi au vendredi, et ce, uniquement sur rendez-vous. Seules les urgences de Coné sont toujours ouvertes 24 heures sur 24. Les soins externes, l'hôpital de jour, les consultations et le service de maternité restent aussi ouverts. Le manque d'effectifs médicaux, un sujet que nous avons évoqué ce matin avec le maire de Coumac, Wilfried Weiss. Il était notre invité à 7h30. Une émission à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc. Santé toujours, et comment les malades du cancer sont-ils soignés au Medipol? Alors que la semaine de prévention du col de l'utérus est achevée, c'est aujourd'hui la journée mondiale du cancer. À cette occasion, le CHT Gaston Bourret partage les coulisses de la prise en charge des malades, Charlotte Coulson.
Car peu de patients le savent, mais les poches de chimiothérapie, celles qui contiennent le traitement qui leur est injecté, sont fabriquées directement sur place. Une trentaine de poches sont confectionnées chaque jour. Elles servent à la fois aux patients du CHT et ceux du CHN de Coné. Aujourd'hui, la chef de service de la pharmacie hospitalière, Caroline Jalkowski, nous a donc ouvert la porte de ses unités pour, comme elle l'explique, partager les détails de ce long processus méconnu.
Eh bien, c'est pour montrer que quand le patient il reçoit sa chimio, il y a tout un travail qui est fait qu'il ne voit pas forcément. De préparation de médicaments qui ne sont pas des médicaments qu'on va chercher et puis qu'on administre, c'est déjà tout prêt. Il y a une préparation qui doit être faite. Et en plus, c'est un peu du sur-mesure vu que la dose va dépendre du poids du patient, de sa fonction rénale, de s'il a des effets indésirables qui fait qu'il faut réduire la dose. Donc tout est sur-mesure. Et donc c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément conscience. Ça nécessite un travail d'équipe entre le prescripteur, les infirmières qui vont administrer, nous, la pharmacie, qui vont préparer, valider et préparer les chimios. Et aussi, il y a des personnels qui sont qualifiés pour ça, des préparateurs qui ont été formés, qui connaissent les règles d'hygiène, de manipulation, de sécurité, pour préparer au mieux les traitements.
Et justement, pour fabriquer ces poches, tout se passe dans la pharmacie du Medipol, au sein de l'unité de reconstruction des cytotoxiques. Dans un premier temps, la pharmacie reçoit tous les composants séparément, puis le travail de l'équipe va être de les assembler pour créer une poche de chimiothérapie. Les manipulations se font dans ce qu'on appelle une salle blanche, un espace stérile et sécurisé, et suivent des protocoles bien précis. Alice Bedford les connaît bien, puisque cela fait 2 ans qu'elle est préparatrice en pharmacie hospitalière. Ce matin, et comme les autres jours, c'est une trentaine de poches de chimiothérapie qu'elle produit avec ses équipiers.
Alors là, on est dans une ZAC, une zone à atmosphère contrôlée. Donc on prépare des poches de chimiothérapie, on reconstitue par patient. On a un protocole à respecter, suivant son poids et des critères. Donc on est 2 dans cette ZAC. On a un manipulateur qui va manipuler dans l'isolateur et l'assistant qui est à côté qui contrôle tout ce que le manip fait. Alors une poche, déjà il y a 15 minutes de stérilisation et le manipulateur à l'intérieur il met à peu près entre 3 et 5 minutes à faire une poche. Moi le contrôle plus l'impression de la fiche de PAB une dizaine de minutes et après la poche sort donc stérile. Et je passe à ma collègue qui est dehors au bureau pour que la poche aille dans le service.
Une durée totale d'environ donc une demi-heure par poche pour permettre la réalisation de 10 000 chimiothérapies par an. Cela représente un budget important. C'est même la première source de dépenses de la pharmacie, avec 1,6 milliard de francs investis notamment dans l'achat des molécules d'immunothérapie.
L'actualité dans la région maintenant. En Australie, une adolescente a été tuée par un requin. Le drame s'est produit hier après-midi à 90 km au nord de Brisbane, dans l'état du Queensland. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La police du Queensland a indiqué que Charlize Smuda, 17 ans, nageait à environ 100 mètres au large de Bribie Island vers 16h30 hier après-midi lorsqu'elle a été attaquée par un requin. Souffrant de graves blessures au bras et au thorax, la malheureuse est décédée sur place en dépit des efforts des ambulanciers qui s'étaient portés à son secours et qui avaient tenté de la maintenir en vie. Selon ses amis et parents qui étaient présents sur les lieux du drame, l'adolescente était un membre actif de l'association des surveillants de plage de Bribie Island. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et en Australie, toujours, de graves inondations sont signalées dans le nord du Queensland, où certaines régions ont reçu 1400 mm de pluie depuis samedi matin. Enfin, dans le Victoria, de violents incendies sont toujours actifs dans 4 parcs nationaux, où plusieurs milliers d'hectares de végétation ont été détruits.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraï, c'est le 99.
Retour sur le territoire et direction Bouraï avec le lancement ce matin du projet Vital Poé. La commune a répondu à un appel à projet national lancé l'an dernier par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique. Des solutions fondées sur la nature pour adapter les territoires côtiers à l'érosion. Le projet consiste à aménager le trait de côte entre le camping de Poé jusqu'au Creek Salé. Écoutez les précisions de Patrick Reblin, le maire de Bouraï.
C'est un projet d'aménagement du littoral pour protéger le trait de côte. Il se dégrade à grande vitesse au niveau du Creek Salé. Le projet comprend du camping de Poué jusqu'au Creek Salé. Donc c'est avec des matériaux naturels, faire en sorte que la montée des eaux détruise moins ce trait de côte. Parce que si on laisse le talus, les marées hautes, les vagues, elles tapent au pied du talus et le sable continue de s'effondrer. Le projet, c'est d'aménager ce talus et planter des arbres, des plantes. C'est des plantes endémiques qui poussent sur le littoral, que Boira, qui a une pépinière, reproduit et on pourra replanter ces arbres endémiques ou qui poussent ou qu'on retrouve sur la zone géographique pour justement protéger ce trait de côte.
Un projet qui est financé à hauteur de 10 millions de francs, soit 8 millions de la part de l'État et 2 millions de l'association Boira Tortue Marine. Il est 18h07, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur le nord, Ouvéa et Belep, la dégradation se poursuivra. Cette dégradation provoquera de fortes averses localement orageuses, pouvant entraîner des cumuls de précipitations importants. Ailleurs, le ciel sera souvent nuageux avec de faibles averses, notamment sur le sud-est. Le vent du secteur sud-est soufflera souvent entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 40 nœuds, localement entre 10 et 15 nœuds aux loyautés. Les températures minimales seront comprises entre 22 degrés sur l'île des Pins et l'Ouest et 26 degrés sur la pointe nord et Belep. Demain matin, les fortes précipitations se poursuivront sur la façade est et aux loyautés, à nouveau sous l'influence d'une petite dépression. Sur l'ouest, les averses seront généralement faibles mais pourront être localement modérées en débordant du relief. Le vent de sud-est à est-sud-est se rapproche de 15 nœuds le matin, localement de 20 à 25 nœuds sur l'ouest avec des rafales de 30 à 35 nœuds, Liana.